Bonjour et bienvenue. Merci de nous rejoindre pour cet épisode du podcast consacré au philosophe français Alain, pseudonyme d'Émile Chartier pour l'état civil, né en Normandie dans le Perche en 1868 et mort au Vésinet en 1951. Bonjour et bienvenue. Merci de nous rejoindre pour cet épisode du podcast consacré au philosophe français Alain, pseudonyme d'Émile Chartier pour l'état civil, né en Normandie dans le Perche en 1868 et mort au Vésinet en 1951. Pour cet épisode, nous prenons la pensée d'Alain à contre-courant en nous demandant et si Freud avait raison. Et même, pour le dire de manière un peu plus radicale, d'un point de vue alinien, et si Alain reconnaissait que Freud avait raison. Je dois présenter mes excuses pour la sortie tardive de ce podcast annoncé le mois dernier. Surcharge de travail, diverses occupations, mais aussi la difficulté de telles interrogations, qui j'en ai bien conscience, sont provocatrices, explique ce délai. Je ne peux exclure toutefois qu'il s'agisse également d'un petit acte manqué. Quand je demande s'il y aurait une vérité alinienne du freudisme, il faut s'entendre. Il est incontestable qu'Alain refuse les théories de l'inconscient et que l'œuvre de Freud, dont on peut dire qu'Alain a une certaine connaissance, probablement par lecture directe de la psychanalyse en 1922, fait partie de cette critique. Sur ce dernier point, je renvoie à l'épisode précédent du podcast. Si je reviens à la question Freud, à vrai dire, c'est moins par intérêt pour un débat à une voix, puisqu'Alain parle de Freud, mais Freud n'a pas la moindre connaissance d'Alain, que parce que la question de l'inconscient oblige Alain à clarifier plusieurs points sur un sujet d'importance, celui de la conscience et en fin de compte celui de la morale. D'où un caveat et une étrange situation. Le caveat, ne lisons pas Freud quand nous lisons sous la plume d'Alain, inconscient. Et surtout si l'on se met à critiquer Alain parce qu'il n'aurait pas compris Freud. Plus d'une fois, il ne s'agit pas de Freud quand Alain parle de l'inconscient. L'étrange situation, quand Alain, non pas très souvent, il est vrai, traite explicitement, même de manière brève, du freudisme, il se montre curieusement nuancé, comme le remarquait déjà Georges Pascal dans l'article qu'il a consacré au refus du freudisme par Alain lors du colloque Alain-Freud de 1990. Malgré la critique, en effet, il y a une forme de reconnaissance que je voudrais explorer ici, comme si Freud était le plus talentueux parmi la cohorte des esprits qui, à tort incontestablement du point de vue d'Alain, croit. Le mot croire est spécialement adapté, me paraît-il ici, croit à l'inconscient. Nous avons vu dans le précédent épisode du podcast pourquoi Alain critiquait cette théorie de l'inconscient. Pour cet épisode, nous allons essayer de comprendre pourquoi Freud, même dans l'erreur, je parle évidemment du point de vue d'Alain, se distingue tout de même de manière remarquable. Je prendrai pour point d'appui ce qui est la dernière référence d'Alain à Freud, et aussi, quoique courte, la plus étendue de ses références. On la trouve dans une note sur l'inconscient qu'Alain insère dans la réédition augmentée des 81 chapitres sur l'esprit et les passions, réédition intitulée « Éléments de philosophie » et qu'il a publiée en 1941. La note sur l'inconscient fait partie des ajouts spécifiques de cette nouvelle édition. On trouve cette note sur l'inconscient à la suite du chapitre 16 du livre 2e intitulé « Du mécanisme ». Ce chapitre existe déjà dans l'édition de 1916 et, comme celui de 1941, conclut le deuxième livre, qui toutefois, dans la première édition, ne comporte que 12 chapitres. Le chapitre du mécanisme ne doit pas être confondu avec le chapitre 7 du livre 5e intitulé « De la mécanique », c'est le chapitre 6 dans l'édition de 1916. Le premier chapitre, celui où se trouve la note sur l'inconscient, le chapitre du mécanisme, traite d'une doctrine pour laquelle, je cite ici Alain, « tous les changements sont des mouvements », tandis que le second, celui de la mécanique, traite de la sous-discipline de la physique qui analyse mathématiquement les mouvements. La note sur l'inconscient des éléments de philosophie s'ouvre sur une considération générale. Lisons le début de cette note. Il y a de la difficulté sur le terme d'inconscient. Le principal est de comprendre comment la psychologie a imaginé ce personnage mythologique. Il est clair que le mécanisme échappe à la conscience et lui fournit des résultats, sans aucune notion des causes. En ce sens, la nature humaine est inconsciente, autant que l'instinct animal, et par les mêmes causes. La nature humaine est inconsciente. Quelle incroyable déclaration sous la plume d'Alain. Pourtant, la tonalité des premières lignes nous est familière. Alain reprend la critique de l'inconscient dont il dit qu'il n'est au fond qu'un mythe, un personnage mythologique. Je reviendrai plus tard sur le fait qu'il va falloir prendre cette remarque au pied de la lettre. Mais pour l'instant, je veux insister sur le fait qu'Alain part d'un mot et non d'une chose. Il part du mot inconscient et du terme d'inconscient, pour le citer, et non pas d'une réalité à explorer. Il part également, de ce point de vue-là, sur une perspective un peu surprenante. Rappelons-nous en effet ce propos de 1931 que nous avons examiné lors du précédent épisode, où Alain dit que dans les débats sur l'inconscient, il y a plus qu'une question de mots. 10 ans plus tard, apparemment, c'est par le mot qu'il va aborder cette même question. Je le souligne encore, il y a de la difficulté sur ce terme d'inconscient. Quelle est cette difficulté? C'est qu'on doit admettre que le mécanisme échappe à la conscience et lui fournit des résultats sans aucune notion des causes. Alain entend ici par mécanisme ces mécanismes qu'est notre corps. Comme le mécanisme a été défini comme la doctrine qui pense le changement comme mouvement, nous parlons ici des mouvements de notre corps. Notre corps produit des mouvements qui échappent à notre conscience mais qui ont des effets sur notre conscient. En effet, pour prendre quelques exemples, nous ne sommes pas conscients du travail des cellules, des échanges sanguins, des hormones, etc., qui président à notre vie organique et donc à notre vie tout court. Pourtant, ce travail influence notre manière d'être, de penser, de nous comporter. Un changement hormonal, par exemple, nous épuise, et quoique nous ignorions qu'il s'agit d'une question d'hormones, nous sommes conscients de notre fatigue. Alain, cependant, se concentre, sans l'expliquer véritablement, sur ce qui, dans ce mécanisme corporel, affecte non pas nos dispositions ou notre santé en général, mais bien notre comportement. Ce mécanisme qui nous fait agir, autrement dit, ce qu'on appelle, comme Alain le fait, l'instinct. L'instinct est un mouvement mécanique et inconscient d'où nous prenons finalement conscience. D'où la difficulté mentionnée par Alain, elle réside dans l'apparente contradiction qu'il y a non pas un inconscient indépendant de mon moi conscient, mais au contraire, un inconscient qui n'existe que par la conscience. Alain finit par résumer ce point un peu plus loin dans le texte, dans une phrase remarquable, « L'inconscient est un effet de contraste dans la conscience ». Rappelons alors l'erreur de la psychologie, selon Alain. C'est de transformer ce qui est un contraste dans la conscience en une dualité qui sépare inconscient et conscient. La note sur l'inconscient reprend cette dénonciation de la psychologie qui invente, une fois encore, ce personnage mythologique, sorte de double scellé à la conscience et comme la note sur l'inconscient le porte, je vais citer la note, un autre moi, un moi qui a ses préjugés, ses passions et ses ruses, une sorte de mauvais ange diabolique conseillé. L'inconscient n'est pas un mauvais ange. C'est à ce point qu'on rencontre la psychanalyse, car cet avertissement se place juste après quelques lignes essentielles consacrées à Freud, ou plutôt au freudisme. Voici l'extrait. Le freudisme si fameux est un art d'inventer en chaque homme un animal redoutable d'après des signes tout à fait ordinaires. Les rêves sont de tels signes. Les hommes ont toujours interprété leurs rêves, d'où un symbolisme facile. Freud se plaisait à montrer que ce symbolisme facile nous trompe et que nos symboles sont tout ce qu'il y a d'indirect. Les choses du sexe échappent évidemment à la prévision, ce sont des crimes de soi auxquels on assiste. On devine par là que ce genre d'instinct offrait une riche interprétation. L'homme est obscur à lui-même, cela est à savoir. L'intérêt du passage, c'est qu'il détaille ce qu'Alain admet du freudisme. Impossible en effet de manquer le « cela est à savoir ». Il ne souffre pas d'ambiguïté, c'est une approbation. De ce fait, les quelques lignes consacrées à Freud ne se superposent pas intégralement à la critique de l'autre moi, de l'ange diabolique que serait l'inconscient, critique qui suit juste après le passage. Au contraire, il y a au moins une chose qui est affirmée dans ce passage, c'est qu'il y a quelque chose à savoir chez Freud. Ce quelque chose, c'est l'obscurité de l'être humain à son propre regard. L'erreur, c'est de mal interpréter ce savoir qui nous vient de Freud en dédoublant le moi sous la forme d'un inconscient diabolique et distant de ma conscience. Alain prend soin de ne pas accuser le freudisme de cette erreur. En effet, Freud n'invente pas un autre moi, mais comme dit Alain, un animal redoutable. Étonnante expression. Il y a dans le freudisme l'invention d'un animal en l'homme. Mais il se trouve que chez Alain, les êtres humains aussi, sont, non pas principalement, non pas seulement, mais tout de même aussi, de redoutables animaux. D'où une affirmation qu'Alain présente comme un point d'accord selon son propre point de vue. Nous ne vivons pas avec nous-mêmes de manière transparente, bien au contraire. Tourner son attention vers soi-même, c'est se heurter à une forme d'opacité dont l'inconscient est le nom. À ceci s'articule un deuxième constat d'accord avec Freud. Il y a quelque chose de supérieurement intelligent dans le freudisme, c'est la découverte du caractère indirect de l'interprétation des rêves. Autrement dit, le Freud le plus connu, peut-être même le plus banal, celui de l'interprétation des rêves, reçoit l'agrément d'Alain. Pourquoi ? Parce que Alain a bien lu Freud sur ce point. L'interprétation des rêves n'est pas une version à prétention scientifique, médicale et thérapeutique des vieilles techniques divinatoires, c'est une critique des théories classiques de l'inconscient qui n'est pas révélée chez Freud par les rêves, mais bien cryptée dans le travail des rêves, car nos symboles sont indirects, c'est-à-dire demandent la médiation d'une interprétation. Elles sont en effet surchargées de sens et dénuées de signification immédiate. On notera du reste qu'Alain lui-même n'était pas indifférent à ses rêves. Il mentionne avec une sorte de tendresse un peu honteuse, par exemple, ses songes hypnagogiques dans « Histoire de mes pensées ». On trouve aussi dans son journal, à la date du 1er septembre 1941, c'est-à-dire une date proche de la publication des éléments de philosophie, où se situe cette note sur l'inconscient, un extraordinaire récit de rêve ou un épisode hallucinatoire. Alain est très malade à cette époque et il souffre d'hallucinations. Où un épisode hallucinatoire semble se fondre dans le réel à travers le récit. Au fond, comme Alain le notait en 1938 dans ce même journal, un peu trop de rêve sans doute. Tel est mon lot sur le rocher. Troisième accord, un peu moins facile à discerner, portant sur ce qu'Alain appelle avec une élégance surannée les choses du sexe. On cite la phrase. Les choses du sexe échappent évidemment à la prévision. Ce sont des crimes de soi auxquels on assiste. On devine par là que ce genre d'instinct offrait une riche interprétation. Ici, Alain vise ce qu'on a pu appeler, pour le critiquer, le pansexualisme de Freud, c'est-à-dire l'insistance sur la pulsion érotique comme forme primaire d'animation de l'inconscient. Alain lui-même ne se montre pas critique de cet aspect, et encore moins choqué. On le relèvera, et on le relèvera particulièrement, car tous les contemporains de Freud et d'Alain n'ont pas montré la même ouverture d'esprit, c'est le moins qu'on puisse dire. Du reste, Alain lui-même peut se montrer assez prude dans ses écrits publics, il n'aime pas par exemple l'érotisme littéraire. Autrement dit, la neutralité d'Alain à l'égard du soi-disant pansexualisme freudien est tout sauf neutre, même s'il faut signaler qu'Alain n'est pas imprude de manière personnelle. Sa vie a été celle d'un célibataire souvent amoureux et souvent heureux en amour et souvent dans ses amours qui n'est pas consécutive. Si maintenant l'on entre dans le détail des remarques d'Alain sur les choses du sexe, on note trois aspects. D'abord, elles sont imprévisibles. Ensuite, ce sont des crimes de soi. Enfin, elles offrent une riche interprétation. Reprenons ces trois termes un à un, à commencer par celui de l'imprévisibilité. Le sexe, dit Alain, échappe évidemment à la prévision. Curieuse remarque, car ce n'est pas forcément la première manière de caractériser le sexe qui nous viendrait à l'esprit. On peut l'expliquer par l'élément à la fois biographique et historique d'une conception romantique de l'amour, comme orage des passions. Cette conception romantique, on la décèle non pas dans les écrits publics d'Alain, mais dans ses écrits privés, notamment dans ses lettres à sa future femme, Gabrielle. Alain en a vécu les effets dans sa biographie. Cette conception présente le sexe comme un moment soudain de révélation et d'attirance, une façon d'être submergé par un désir qui nous prend par surprise. Au XXIe siècle, il est vrai, nous essayons d'imposer une conception officielle de la sexualité très différente, qui promeut le consentement raisonné et organisé en matière de sexe. Pourtant, je crois qu'il n'est pas difficile de comprendre Alain sur ce point. L'idée du sexe comme irruption du passionnel et du charnel, comme orage passionnel, demeure quelque chose d'inscrit dans le répertoire culturel de nos sociétés. On a vu dans l'épisode précédent du podcast que le décalage entre notre conscient et les mouvements de l'instinct, donc son imprévisibilité, car la raison arrive toujours après le mouvement instinctif, est justement ce qui nous fait croire à un inconscient. Je ne reviens sur cette analyse que pour en rappeler les conclusions. les mêmes dans le texte des éléments de philosophie. La sexualité, simplement, est un lieu privilégié où il y a ce décalage entre l'instinct et la raison. Nos mouvements, notre désir, anticipent systématiquement sur notre capacité à prévoir, organiser, bref, à user de notre raison. Les choses du sexe échappent à la prévision, cela veut dire qu'elles échappent à la raison. On dira que c'est une manière un peu contournée de dire quelque chose d'assez banal, le sexe est irrationnel et déraisonnable par nature. C'est pas faux que c'est une manière un peu contournée de dire les choses, mais on ne saurait prétendre qu'Alain ne nous avertit pas ici, puisque pour lui, il dit bien que c'est une évidence. Passons donc au deuxième terme de l'accord d'Alain avec Freud sur la question du sexe. Elle est relevée par une expression qui n'est pas simple. Les choses du sexe sont des crimes de soi. La formule s'éclaircit si l'on pense qu'Alain a le freudisme à l'esprit. En effet, l'idée d'un crime de soi doit se comprendre comme l'ombre portée d'un grand thème freudien, celui de la culpabilité. Se sentir coupable, c'est croire qu'on a commis une infraction à une loi, et une infraction grave, c'est justement un crime. Si le sexe est un crime de soi auquel on assiste, c'est en effet que notre sexualité est, pour des hommes de la génération d'Alain comme de Freud, le lieu par excellence de la culpabilité. L'expression d'Alain pourrait servir de texte de référence pour la psychanalyse à ce sujet. Il ne s'agit pas pour moi d'entrer dans l'entrelac de la réflexion complexe et évolutive de Freud sur la question de la culpabilité, ni de me demander si la sexualité aujourd'hui a exactement le même rôle qu'à l'époque d'Alain ou de Freud, et par là de soulever la question passionnante de l'historicité de l'inconscient. Je me contenterai de relever que ces phrases très brèves d'Alain correspondent de manière exacte à une des positions de la culpabilité chez Freud, une position centrale. Cette centralité, une commentatrice récente, Félicie Néroux, la caractérise. C'est l'idée que c'est la poussée pulsionnelle elle-même qui s'accompagne de culpabilité. Elle précise que cela va être un des fils que Freud va suivre jusqu'à ses derniers travaux. Donc Alain est bien au centre du freudisme ici. Du reste, pour celles et ceux intéressés à comprendre la question de la culpabilité chez Freud et les différents aspects de cette question, je ne saurais manquer de les encourager à lire cet article de 2011 qu'on trouve dans les pages de la revue française de Psychosomatique. On trouvera sur le site du podcast la référence complète à ce travail qui offre une solide ressource. Venons-en à la troisième caractéristique des choses du sexe. C'est un instinct, dit-il, qui offre une riche interprétation. Phrase capitale, elle relie directement la question du sexuel à celle de l'interprétation des rêves dont Alain nous dit que Freud a bien montré le caractère indirect. Le passage est toutefois aussi elliptique et mystérieux qu'il est important. Alain nous laisse deviner, comme il dit, en quoi cet instinct s'offre à l'interprétation. Alors devinons et proposons le commentaire suivant. D'une part, on l'a vu, le sexe ne relève pas de la raison dans la mesure où il est imprévisible. D'autre part, il n'est pas simplement un fait du corps, mais un fait en quelque sorte moral, puisque cet instinct est immédiatement vécu comme criminel. Parce que ce vécu n'est pas rationnel, on ne peut l'analyser logiquement. En tant que vécu, c'est-à-dire en tant que ce qui s'impose à nous, ce qui nous fait en quelque sorte, selon la formule d'Alain, assister à nous-mêmes. En revanche, on peut en faire état, et on en fait état dans un récit. Or, l'analyse d'un récit, c'est proprement une interprétation. La vérité du freudisme, s'il en est une, ne se situerait donc pas du côté de la raison. Sur ce versant, Alain est un critique sévère. Le freudisme n'est pas vrai. Mais il se situerait du côté d'une sorte de récit qu'on osera appeler analytique. L'accord n'ira pas plus loin. Alain nous rappelle que, de son point de vue, la psychanalyse n'est qu'un art créatif. Elle invente, je cite ici la note sur l'inconscient, en l'être humain un animal redoutable. C'est une reconnaissance, mais en négatif. Une reconnaissance pour l'invention, non pas une reconnaissance pour la raison. Mais après tout, les inventions de notre imagination ont leur valeur chez Alain, qui n'a de cesse d'affirmer tout au long de son œuvre qu'on ne demande pas à un conte s'il est vrai ou non, mais qu'on cherche ce qu'il veut bien dire. Eh bien, Freud, cela me semble un peu pareil, c'est un conte. Et d'autant mieux, ajouterait-on, que Freud n'hésite pas à passer par la mythologie pour comprendre l'inconscient. C'est pourquoi on peut ranger la lecture que fait Alain de Freud parmi les lectures mythologiques du freudisme. Lecture mythologique, c'est une magnifique expression de François Foulatier qui a développé l'idée brillamment dans sa communication au colloque Alain Freud sur le potentiel et le refoulé. Ne cherchons donc pas à savoir si le freudisme, comme dit Alain Descomptes, est vrai. Il ne l'est pas. Mais ce n'est pas dans l'ordre de la vérité, mais dans l'ordre du sens qu'on doit en capter l'intérêt et l'attention. On pourra donc raconter tout ce qu'on veut sur le refus par Alain du freudisme. Il y a un point là d'interrogation, d'autant plus marqué que le refus de l'inconscient, une certaine forme d'inconscient, est sans ambiguïté, mais qu'en même temps, l'acceptation de certains aspects du freudisme, notamment sur la sexualité, est aussi sans ambiguïté. Alain peut réfuter Freud, il ne s'en débarrasse pas. Cela ne signifie pas qu'Alain fasse de la psychanalyse une obsession, il en parle peu à vrai dire, il n'en fait pas non plus une objection. La note sur l'inconscient s'achève en quelque sorte par là où elle avait commencé, sur une histoire de vocabulaire. Il y a de la difficulté sur le terme d'inconscient, c'est par là qu'Alain commence, et la dernière phrase de la note c'est « En somme, il n'y a pas d'inconvénient à employer couramment le terme d'inconscient, c'est un abrégé du mécanisme ». Admettons donc l'inconscient comme mot, mais la chose elle-même. Un abrégé, c'est une expression dont le référent est non pas une chose ou un phénomène, mais un développement discursif. L'acceptation, par exemple, comme le mécanisme qui est une doctrine. L'acceptation de l'inconscient est donc celle d'un terme qui renvoie non pas à une réalité, mais à une série d'idées. Et ces idées, ce sont celles, d'après Alain, du mécanisme. Pour cette raison, il est clair que chez Alain, s'intéresser trop à l'inconscient est justement une faute. Freud a raison, mais il a raison sur quelque chose qui est de l'ordre du sens et d'un sens qui, au fond, ne nous intéresse pas du point de vue philosophique. Rappelons ici ce que nous avons vu dans l'épisode précédent du podcast. Le refus de l'inconscient, Georges Pascal l'a rappelé, est une décision morale. Elle se marque, cette décision morale, de façon explicite dans la note de l'inconscient elle-même. Alain affirme en effet qu'il n'y a point de pensée en nous que par l'unique sujet « je » et il ajoute « cette remarque est d'ordre moral ». Cette remarque d'ordre moral est la clé du refus du freudisme. Si la philosophie est un questionnement éthique, l'inconscient nous ramène aux eaux troubles de l'immoral et plutôt même de ce qui est à la source de nos jugements moraux, la culpabilité. La seule chose qu'Alain veut savoir philosophiquement, c'est qu'il y a un lieu d'obscurité. Et ce lieu, on peut le nommer comme on veut, inconscient, si l'on veut. Mais il ne s'agit pas de vouloir faire de ce qui n'est qu'un mot, une chose qui nous dédoublerait entre inconscient et un inconscient. La morale contre l'inconscient, ou plutôt la morale qui nous détourne de nous attarder trop vers l'inconscient. La solution d'Alain ne passe pas par l'exploration de l'inconscient, mais en quelque sorte par son court-circuitage. Ce que recommande Alain, c'est « puisque l'inconscient est un abrégé du mécanisme de notre corps, des mouvements de notre corps, eh bien il faut exercer son corps et non pas chercher son inconscient. » Est-ce une solution ? Est-ce une solution parfaitement stable ? Il se trouve que nous ne sommes pas nécessairement conscients des mécanismes de notre conscience morale. C'est un des apports majeurs de la psychanalyse, qui montre que notre moralité elle-même est structurée dans notre inconscient. C'est le propos du Freud qui découvre ce qu'on appelle la seconde topique, où le psychisme humain est distribué sur trois instances, le ça, le moi et le surmoi. Le surmoi, l'image sublimée du moi, travaille dans l'inconscient aussi. Alain aime à rappeler qu'en français courant, la conscience signifie la conscience morale. Eh bien, pour continuer sur l'esprit provocateur de ce podcast, et je me sens fidèle à Alain en ceci, puisque pour Alain, ce qu'il écrit directement, c'est que le mauvais esprit, c'est l'esprit. Eh bien, pour faire un peu de mauvais esprit, j'aimerais retourner cette conception. Et je dirais que selon Freud, notre conscience morale, c'est bien des fois notre inconscient. Il est difficile de conclure, on reviendra ultérieurement sur les questions de morale chez Alain, mais je voudrais me référer en guise de semi-conclusion aux travaux du philosophe américain Jonathan Lear. Son livre sur Freud a été traduit en français sous le titre « Freud, l'invention de l'inconscient » aux éditions d'Organisation en 2006. Mais j'aimerais aussi faire référence au très beau « Love and its Place in Nature, a Philosophical Interpretation of Freudian Psychoanalysis » pour nos auditeurs anglophones. Lear ne cesse de rappeler que le freudisme répond à une question que pose la philosophie depuis son origine socratique : comment vivre une vie humaine ? Cette question est aussi celle d'Alain. Or, Lear ajoute que cette question intègre la façon dont nous avons de vivre avec notre inconscient aussi bien. Et Alain est également dans cette dimension, simplement pour lui, vivre avec son inconscient, c'est vivre avec son corps. Freud intercale cette zone de sens qui offre une riche interprétation, et c'est ce que nous dit Lear, explorer cette zone d'obscurité par rapport à notre conscience, ce n'est pas manquer à notre devoir ou à notre travail éthique, c'est au contraire l'enrichir d'une autre dimension. En ce sens, si Alain a raison de refuser l'idolâtrie du corps dont il voit l'ombre dans nombre de théories de l'inconscient, Freud pourrait bien nous aider à prendre nos distances par rapport à une certaine iconoclastie de la volonté. Et cette iconoclastie, cette volonté de détruire les images par la volonté, les imaginaires par la volonté, on la trouve chez un certain Alain. Non point dans toute l'œuvre, car il y a une magnifique épopée de l'imagination, de l'imaginaire, du rêve et de l'obscurité morale chez Alain, mais il y a également une volonté de s'en extraire qui, parfois, néglige ce premier aspect. On trouvera sur le site web les références de ce podcast. Les éléments de philosophie sont disponibles dans l'excellente collection Folio Essai, tandis que les 80 chapitres, l'édition originale des éléments, sont publiés dans le volume Pléiade d'Alain, Les Passions et la Sagesse. Je ne mentionne que pour en dénoncer le caractère pirate, un reprint des 80 chapitres aux États-Unis. Rappelons que la source la plus étendue sur le rapport Alain Freud et le colloque sur ce thème publié par l'Institut Alain dans les années 90, l'article de Félicie Néroux, Chemin tortueux de la culpabilité chez Freud, est consultable dans le numéro 1, volume 39 de la Revue française de psychosomatique. Et il est consultable également sur la plateforme Cairn en ligne. Enfin, signalons un petit ouvrage de Claudie Hamel aux éditions lepetitphilosophe.fr. Il ne s'agit pas d'un commentaire et encore moins d'une analyse, mais d'une fiche pédagogique sur la note sur l'inconscient. Elle est un peu décevante en ce sens qu'elle ne tient pas compte de la recherche universitaire récente sur Alain. Mais dans les limites du genre, elle pourra tout de même offrir un certain soutien à la réflexion. Signalons enfin que l'actualité d'Alain est riche en cette période. Le bulletin des amis d'Alain vient d'être distribué. Il est consacré à Alain et Montaigne. On y trouve aussi un texte stimulant de Jean-Michel Muglioni sur les paradoxes économiques chez Alain. Enfin, la revue générale du mois de mars comporte un texte que j'ai écrit sur Alain au présent. Nous en reparlerons lors du prochain podcast qui sera justement consacré à l'actualité mondiale en nous demandant « Et si Alain nous parlait de la pandémie coronavirus ?» Ce podcast sera publié dans 3 semaines et c'est promis cette fois, il n'y aura pas de retard.